Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Olivier Arnay.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, nous allons tenter de réconcilier la littérature et l'économie, deux disciplines qui se sont longtemps tournées le dos, séparées par l'emprise croissante des mathématiques sur la science économique. Les tout premiers penseurs de la richesse étaient pourtant philosophes et hommes de lettres, et l'essor du roman a accompagné celui du capitalisme, comme nous l'avons raconté hier. Dans ce troisième épisode de notre série sur les mots et l'argent, c'est la sociologie de l'écrivain et la fabrique du génie que nous examinons à la loupe. Qu'est-ce que les sciences sociales ont à nous dire du talent artistique ? Voilà une question qui continue de susciter d'âpres débats dans le sillage de Pierre Bourdieu et de son ouvrage « Les règles de l'art ». Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler des origines du génie, nous accueillons aujourd'hui Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, autrice de « La sociologie de la littérature » parue à La Découverte en 2014. À 14h50, vous saurez tout de l'actualité économique grâce au journal de l'Écho de Xavier Martinet.
J'ai un ami qui est artiste. Parfois, il adopte une opinion que je crois fausse. Il cueille une fleur et me dit « Regarde comme c'est beau ». Ce à quoi j'acquiesce, et lui d'ajouter « Tu vois, moi, en tant qu'artiste, je peux voir sa beauté. Mais toi, le scientifique, tu la décortiques complètement et elle perd tout son intérêt. Je pense que c'est un peu idiot. Premièrement, toute la beauté qu'il voit est accessible à d'autres. Et même si je ne suis pas aussi raffiné que lui, je sais apprécier la beauté d'une fleur. En plus, je peux voir beaucoup plus de choses de cette fleur que lui. Je pourrais voir les cellules qui la composent, les actions complexes qui la régissent, qui ont aussi une beauté. Mais pas seulement la beauté à l'échelle du centimètre, mais aussi à des échelles bien plus petites. Les structures internes, les processus, le fait que les couleurs des fleurs ont évolué pour attirer les insectes pollinisateurs, tout cela est intéressant. Cela signifie que les insectes voient les couleurs. Cela ajoute une question. Est-ce que le sens esthétique existe aussi dans ces formes de vie plus simples ? Toutes sortes de questions passionnantes que la science vient ajouter à l'excitation, au mystère et à l'admiration de la fleur. Cela ajoute quelque chose. Je ne vois pas en quoi cela enlèverait quoi que ce soit.
Bonjour Gisèle Sapiro.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue dans nos studios aujourd'hui. C'est le physicien américain Richard Feynman que l'on vient d'entendre dans une interview de 1981. Feynman qui soulève ici une question essentielle qui a suscité de nombreux débats, qu'il s'agisse de physique, d'économie ou de sociologie. Et cette question, c'est celle-là. La science doit-elle s'emparer de la question de l'art, de l'esthétique ou encore du talent, Gisèle Sapiro ?
Oui, on a beaucoup reproché à Bourdieu ce qu'on entend ici, c'est-à-dire de démythifier l'art, de briser en fait ce que lui décrit comme l'illusion de la croyance littéraire, en expliquant les rouages, les mécanismes du fonctionnement de la littérature. Or, Bourdieu s'en est toujours défendu en disant que, comme on vient de l'entendre, que au contraire, la sociologie de la littérature permet même de mieux comprendre et de mieux aimer la littérature si on en comprend les principes. Si on comprend la singularité d'un écrivain, ressortira d'autant mieux qu'on comprendra quel était l'espace des possibles dans lequel il œuvrait et en quoi il a renouvelé cet espace des possibles.
Il y avait une inquiétude qu'une approche trop rationnelle détruise le caractère esthétique et sensible de l'œuvre, c'est-à-dire ce qui fait qu'elle est une œuvre.
Oui, alors ça c'est classique contre l'analyse, la critique de la rationalité qui tuerait l'émotion, qui tuerait la spontanéité. C'est pas faux que ça a introduit une sorte de deuxième réflexion, mais la deuxième réflexion peut aller de pair avec l'appréciation esthétique de l'œuvre. Et d'ailleurs, la discipline de l'esthétique s'est constituée en essayant de comprendre, d'élaborer des critères pour comprendre la beauté. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut chercher à comprendre ce qui nous anime, ce qui nous émeut. Il y a maintenant toutes des recherches sur les émotions. Ça n'empêche pas qu'on les intéressante. Apprendre à maîtriser ses émotions, c'est un apprentissage qui n'est pas forcément... La science peut aider, mais qui n'est pas forcément scientifique.
Et c'est en tout cas dans les règles de l'art que Pierre Bourdieu, donc ouvrage publié en 1992, que Pierre Bourdieu apporte justement cette approche sociologique de la littérature. Et il se demande pourquoi cette approche rationnelle suscite tant de polémiques. Quelles sont les réponses qu'il apporte ?
Il a été très fortement attaqué sur cette démythification, mais aussi sur la façon dont il analyse les comportements humains en général, c'est-à-dire la notion de stratégie, par exemple, lui a été beaucoup reprochée parce qu'elle a été mal comprise, parce qu'on pensait qu'il parlait de stratégie consciente, de stratégie qui visait purement à du profit.
Or, il parle de stratégie d'auteur et de stratégie d'écriture, notamment.
Oui, enfin, j'essaie d'établir cette distinction pour essayer justement de voir comment on peut analyser les œuvres en rapport avec les stratégies d'auteur, parce que le monde littéraire est un monde où pour exister il faut se distinguer, il faut se faire un nom, et donc depuis le romantisme la figure de l'auteur, la personne de l'auteur est quasiment aussi importante que l'œuvre, il y a un culte de l'auteur, et donc il y a une présence physique de l'auteur dans l'espace public qui est liée, enfin qui est une manière aussi de se distinguer dans la société, le dandysme, bon, George Sand s'habille en homme, par exemple, c'est aussi parce qu'évidemment pour être accepté dans ce milieu, il faut s'habiller en homme, mais c'est une manière de se distinguer, de se faire repérer.
Alors on va revenir sur toutes ces stratégies, Gitel Sapiro, mais effectivement, regardons comment Bourdieu propose cette lecture sociologique, en particulier de l'éducation sentimentale de Flaubert.
Le 15 septembre 1840, vers 6h du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne, on se heurtait. Les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit. Et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail. Immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame. Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue.
L'Incipit de l'éducation sentimentale de Flaubert, donc qui retrace le parcours de Frédéric Moreau qui monte à Paris en 1840 pour faire son droit. Pourquoi est-ce que Pierre Bourdieu a choisi Flaubert et ce roman en particulier, Gilles Sapiro ?
Alors, je pense qu'il a choisi ce roman parce que c'est un roman où on peut voir à l'œuvre tout ce qui fait l'indétermination de la vie d'artiste. C'est-à-dire ce moment juste avant que l'artiste dévie de la trajectoire qui lui est assignée, faire du droit, ce que Flaubert était censé faire lui-même, et ce moment où il repousse la décision à prendre dans sa vie par rapport aux trajectoires qui lui sont ouvertes. Et donc on voit Frédéric Moreau entre les salons, entre enfin tout ce qui s'offre à lui, le milieu de la bohème, hésiter et en fait on s'arrête avant la décision qui sera celle de Flaubert de s'engager dans la voie littéraire entièrement et abandonner complètement la voie qui lui était tracée par sa famille bourgeoise de devenir un avocat.
Et c'est en cela que pour Pierre Bourdieu, c'est davantage Flaubert que Balzac, par exemple, qui est le plus grand sociologue de son temps.
je pense qu'il n'aurait pas nié que Balzac fût sociologue, mais je pense qu'il s'intéressait particulièrement à Flaubert à cause de la révolution symbolique effectuée par Flaubert. Pour lui, Flaubert et Baudelaire sont des nomothètes, c'est-à-dire qu'ils créent une nouvelle règle du jeu, une règle qui est celle du champ littéraire, où en fait la reconnaissance doit être uniquement celle des pairs et pas celle du public. Donc c'est une opposition au capitalisme d'édition qui se développe à l'époque, où en fait l'écrivain refuse de se soumettre à la sanction du public le plus large et aux critères marchands, à la loi du marché, c'est-à-dire les critères de vente. Mmh. Et donc Flaubert décide en fait de faire ce métier d'écrivain sans faire tout ce que Balzac faisait, c'est-à-dire Balzac est un peu un entrepreneur, il publie en feuilleton, c'est un des premiers, c'est le premier je crois feuilletoniste dans la presse, enfin il est entrepreneur de son œuvre et il vit de la littérature.
Alors que Flaubert accepte de vivre dans le dénuement par exemple.
Oui, enfin il vit de ses rentes hein, comme beaucoup d'écrivains de l'époque, donc mais il ne cherche pas en fait le profit. Et Baudelaire vit assez dans le dénuement, et beaucoup d'écrivains vivent dans le dénuement. C'est quelque chose d'ailleurs qui traverse la littérature de l'époque, hein, ce dénuement de beaucoup d'écrivains qui ne font pas profession. Alors il y a tout un pôle d'écrivains très professionnalisés à cette époque qui vivent très bien de leur plume, mais d'autres qui sont beaucoup plus dans le dénuement. Et donc effectivement, ceux qui vivent de leur plume vont plus dans le sens des attentes du public, avec par exemple le modèle de Eugène Sue qui répond, qui oriente, développe son histoire en fonction des réactions des lecteurs.
Et c'est à partir du 19e siècle, et en particulier à partir des romantiques et de la poésie romantique du début du 19e siècle, qu'on voit ce clivage entre des écrivains qui entendraient effectivement tirer profit de leur activité et des écrivains qui auraient une vision peut-être un peu plus idéalisée, un peu plus pure de ce qu'est la vraie littérature.
Disons qu'au XVIIIe siècle, il y a peu d'écrivains qui vivent vraiment de leur plume, et les écrivains ont un statut social souvent ils ont des charges officielles auprès du gouvernement, ou alors ils sont vraiment la bohème littéraire, et le capitalisme d'édition se développe surtout au début du XIXe, et c'est le moment où il commence à devenir possible de vivre de sa plume. Et d'ailleurs, c'est le moment où se crée la Société des gens de lettres en 1838 pour revendiquer l'extension du droit d'auteur qui a été codifié au moment de la Révolution française, qui existe depuis 1777, mais qui a été recodifié sous la Révolution française, pour que ce droit qui s'applique aux livres soit étendu aussi à la presse, et qu'on reconnaisse en fait le droit de l'écrivain à tirer profit de son activité.
Ce qui permet de comprendre peut-être la professionnalisation, cette première professionnalisation qui commencerait peut-être au début du 19e siècle, Gisèle Sapiro, c'est la différence qu'on peut établir par rapport aux écrivains de l'ancien régime. Ce qu'on constate au 19e siècle, en 1820, c'est qu'il n'y a plus que 5% d'ecclésiastiques. Donc il y a déjà cette première distinction qui s'opère.
Oui, alors il y a en fait au XVIIIe siècle, même la notion de littérature telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. La littérature, ça englobe la philosophie, la vulgarisation scientifique, enfin les activités elles-mêmes ne sont pas différenciées. Et comme je disais, les écrivains ont des charges officielles quand ils sont du côté du pôle mondain du champ littéraire, hein, ce qu'a étudié Robert Darnton, où ils sont les Rousseaux du ruisseau, hein, c'est la bohème littéraire. En fait, au 19e siècle, se structure un ensemble d'instances, mais c'est à cause du développement, en fait, des possibles, et aussi de l'extension du lectorat, de la généralisation l'accès à la lecture, qui permet, et il y a d'ailleurs énormément de débats sur qui peut lire quoi, est-ce que les femmes peuvent lire des romans, il y a toute une mythologie des effets nocifs des romans sur les femmes, dont d'ailleurs la thématique, c'est la thématique de Madame Bovary, de Flaubert. Donc, c'est une activité qui se développe et se professionnalise beaucoup à cette époque.
Et alors, Pierre Bourdieu va proposer un cadre d'analyse pour expliquer la trajectoire des écrivains. C'est ce qu'il appelle le champ littéraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Gisèle Sapiro ?
Alors, le concept de champ littéraire, c'est un concept abstrait qui vise à comprendre les enjeux spécifiques de cet univers. Justement, de comprendre que la valeur littéraire, elle n'est pas réductible à la valeur économique du produit. C'est pas le fait de faire un best-seller qui va faire la valeur esthétique de l'œuvre. Et cette valeur esthétique, elle ne peut être décrétée que par des instances spécifiques qui sont les pairs eux-mêmes, les écrivains, comme ceux les écrivains qui siègent dans des instances comme les prix littéraires, puisqu'on est dans la saison des prix, les écrivains ou les critiques qui œuvrent dans des revues, dans la presse, mais enfin ce sont des spécialistes. Et ce processus, alors c'est ce qu'il appelle une économie inversée, c'est-à-dire que c'est pas la rentabilité économique qui fait la valeur, mais sur le long terme, en fait, c'est cycle court et cycle long, sur le long terme, des œuvres qui ne se vendent pas forcément beaucoup, parce que souvent elles sont trop novatrices, pour toucher un public trop difficile, peuvent, sur le long terme, devenir des classiques. D'ailleurs, il y a un exemple qu'on pourrait donner qui est L'étranger de Camus, qui avait été vendu aux États-Unis après la guerre pour $500 par un agent. Et dans les années 60, il est rentré dans le programme du secondaire. Et donc, ils en vendaient 1 million par an. Et évidemment, c'est pas Camus ni ses héritiers. Camus n'était plus en vie, mais ses héritiers qui en ont bénéficié.
Et pour obtenir cette reconnaissance, ce que Pierre Bourdieu observe, c'est que ce champ littéraire est le lieu d'une lutte de rapport de force entre écrivains et une lutte pour la définition de ce que doit être l'écrivain véritable et la vraie littérature.
Tout à fait. Alors, d'autant plus que depuis le romantisme, on change de paradigme et c'est l'idée de l'originalité qui s'impose. Et donc, l'originalité veut dire qu'il faut renouveler en fait les modèles par rapport à l'imitation qui prévalait dans la littérature classique, d'où cette notion aussi de génie qui se développe à l'époque du génie romantique. Ça vaut aussi pour les sciences d'ailleurs. La recherche de l'absolu de Balzac, c'est la figure du savant fou qui se dédie entièrement et qui sacrifie sa famille, enfin tous ses biens à son démon de la recherche. Cette quête de l'originalité va pousser justement à ce qu'il y ait d'autant plus de luttes ouvertes dans le champ littéraire pour s'affirmer, s'imposer. Bourdieu a beaucoup travaillé avec le modèle du champ religieux, l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Et donc, les nouveaux venus souvent s'affirment contre les écrivains établis de manière hétérodoxe en contestant leur définition de la littérature.
Vous parlez de la question du génie, justement, comment est-ce qu'on peut définir cette notion ? Je vous propose d'écouter la définition qu'en donne le sociologue allemand Norbert Elias, définition rapportée ici par l'historien Roger Chartier.
Dans le livre d'Elias, la notion de génie est identifiée dans sa définition romantique, c'est-à-dire une capacité intérieure à transgresser les codes, les conventions, les positions, une sorte de puissance prométhéenne du créateur. Il y a une définition de la Renaissance qui serait sans doute un peu différente et peut-être plus proche du talent qu'évoquait Boulez. Alors le propos de Norbert Elias est effectivement de montrer qu'il y a peut-être chez Mozart cette aspiration à bousculer les conventions, aussi bien par l'idée d'affirmer un artiste indépendant, qui ne serait plus dépendant du patronage, d'inventer des formes qui ne seraient pas, ou si elles y restent, identiques à la convention, et qui serait de rompre avec la tradition de ces sortes d'artisans de musique qui étaient embauchés, enfin, travaillant soit pour les aristocrates, pour les princes ou pour l'Église.
Voilà ce qui est adapté à la musique par rapport à notre discussion sur la littérature. Gisèle Sapiro, le génie, c'est celui qui transgresse les conventions, qui opère une révolution symbolique, dirait Pierre Bourdieu.
Bourdieu n'utilise pas vraiment la notion de génie, mais par contre, il a forgé ce concept de révolution symbolique pour expliquer, un peu comme les révolutions scientifiques de Kuhn, comment un écrivain, à un certain moment donné, est en mesure de renouveler l'espace des possibles, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Flaubert, comment Flaubert introduit cette figure du narrateur impersonnel, qui ne juge pas, omniscient et impersonnel, parce que le narrateur balzacien est omniscient, mais il juge ses personnages et il n'est pas clairement différencié de l'auteur. Or, Flaubert établit ce qui va devenir une convention de la littérature moderne, qu'on ne sait pas exactement qui est le narrateur, et il introduit une autre technique, d'ailleurs les deux sont empruntés en fait à Goethe, ça a été montré par un collègue allemand, mais c'est la technique du discours indirect libre, où il rentre dans l'esprit du personnage, mais sans le signaler, sans mettre de guillemets, et sans recourir à l'indirect, à la forme indirecte. Et ça crée en fait une ambiguïté qui est source de scandale, puisque Flaubert va avoir un procès pour Madame Bovary. Voilà, donc ça c'est
le procès la même année que Les Fleurs du Mal de Baudelaire en 1857.
Exactement, et Baudelaire aussi renouvelle l'espace des possibles, son lyrisme, enfin le recours à la forme lyrique du jeu pour parler par exemple à la première personne au nom d'un criminel, ou l'introduction des odeurs, tout ça ce sont des ruptures des conventions classiques. Chez Flaubert il y a aussi le traitement tragique d'un personnage bas dans la hiérarchie sociale, comme Madame Bovary, qui normalement devrait être tributaire d'un traitement comique selon la convention classique.
Et c'est un renversement des codes qui dépend notamment de la position que l'écrivain occupe dans le champ littéraire. Mais alors, de quoi cette position dépend-elle? Qu'est-ce qui fait qu'on appartient justement à ce camp, pour reprendre des termes bourdieusiens, des dominés ou des dominants?
Oui, alors Bourdieu réfléchit justement avec sa notion de trajectoire sociale, pour comprendre comment l'habitus d'un écrivain, c'est-à-dire ses dispositions, vont l'orienter, vont le conduire, et c'est pas quelque chose, c'est pas un modèle qu'on peut appliquer, c'est un modèle heuristique pour la recherche, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les dispositions d'un écrivain vont l'orienter d'un côté ou de l'autre du champ. Mais on voit aussi j'ai travaillé sur François Mauriac, François Mauriac, il raconte lui-même comment il était, dès son entrée dans le champ, attiré par le pôle mondain du champ littéraire, et comment l'Académie française lui faisait signe déjà quand il était tout jeune, à 30 ans, quand il rentre dans le champ. Et en même temps, Mauriac ne s'est pas satisfait de ça. Il était attiré aussi par le pôle plus ascétique du champ, peut-on dire, par la Nouvelle Revue française.
On va voir tout à l'heure que son appartenance à l'Académie française et son roman, l'un de ses romans, était largement critiqué par Sartre, mais je vous laisse poursuivre.
Oui, tout à fait, mais il a quand même été attiré par cet autre pôle et reconnu par ce pôle de production restreinte, pour utiliser les termes de Bourdieu, ce pôle autonome des sanctions extra-littéraires, peut-on dire. Là, c'est en l'occurrence les sanctions mondaines. Donc à la fois, il touchait un public assez large, mais en même temps, il était toujours à la limite de l'hérésie, même du point de vue en tant qu'écrivain catholique. Et il touche à des questions quand même dérangeantes pour l'Église dans son œuvre.
Si on regarde d'un peu plus près les origines sociales des écrivains depuis le 19e siècle, alors on disait tout à l'heure que ce sont les hommes de lettres sont de plus en plus, alors sont de moins en moins appartiennent de moins en moins au clergé, sont encore beaucoup des hommes politiques dans la première moitié du 19e, puis après il y a la professionnalisation du métier d'homme politique sous la 3e République. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que au 19e et pendant une large partie du 20e siècle, Gilles Sapiro, on a des écrivains qui sont encore une élite à la fois par leur origine sociale et leur niveau d'éducation, à une époque où la scolarité secondaire concerne une infime minorité?
Oui, alors c'est très clair dans les enquêtes qui existent sur le 19e siècle que les écrivains appartiennent à cette élite issue du secondaire, quand moins de 3% de la classe d'âge des garçons sont scolarisés. Donc on voit très bien que c'est le capital culturel, et sachant qu'à cette époque, en fait, les humanités sont les plus importantes dans la formation secondaire. Hein. La formation scientifique ne va vraiment s'établir qu'au début du 20e siècle.
Hein. Donc grande et moyenne bourgeoisie et essentiellement parisienne.
Voilà, parce qu'il faut rappeler que le secondaire est payant à cette époque et pas donné. Donc la Troisième République, elle crée l'école primaire, mais pour les enfants du peuple, mais le secondaire n'est pas gratuit avant les années 30. Donc les années 30, c'est un moment de démocratisation de l'accès à l'enseignement. l'enseignement supérieur. Et on voit d'ailleurs cet effet de la démocratisation dans le recrutement du champ littéraire. Ce qui est intéressant dans le champ littéraire, c'est que effectivement, il y a une surreprésentation des classes moyennes, supérieures, mais en même temps, on a toujours des écrivains qui peuvent venir des classes populaires. Ça existe, hein. Il y a des figures tout au long du 19e siècle. Après, les chances d'accès à la reconnaissance sont inégales. De même pour les femmes. En fait, on a des femmes, on a recensé 700 femmes qui écrivent au 19e siècle. C'est pas facile à recenser parce que beaucoup écrivent sous pseudonyme masculin. Mais le problème, c'est l'accès à la reconnaissance. Mmh. Et donc, la vraie reconnaissance des femmes, c'est bien plus tardif, en fait, que ce moment-là.
Et alors, qu'en est-il aujourd'hui, justement, à la fois de ses origines sociales et de cet accès à la reconnaissance? Je vous propose d'écouter le sociologue Bernard Lahire, qui est interviewé par Mediapart.
Les deux métiers les plus fournisseurs d'écrivains, c'est l'enseignement et le métier de journaliste. Alors, d'une part, ce sont des métiers qui supposent des formations supérieures, donc des gens très, très éduqués, très scolarisés, qui ont l'habitude d'écrire, concrètement. Donc ça n'est pas un hasard si, c'est parmi ces gens-là qu'on trouve beaucoup d'écrivains. Et puis le deuxième aspect, c'est la possibilité de gérer son temps pour permettre le travail de création littéraire. Alors tout particulièrement pour l'enseignement, il y a des gens qui peuvent négocier des mi-temps, qui peuvent mettre 3 jours d'affilée de l'enseignement pour avoir 4 jours libres pour l'écriture. C'est le cas de certaines personnes que j'ai interrogées dans le cadre de la recherche en 2006. Et donc on a comme ça des conditions assez favorables au fond à l'acte littéraire.
Ce qu'on entend bien ici, Gisèle Sapiro, c'est que la professionnalisation du métier d'écrivain a continué à progresser au cours du XXe siècle, mais elle est encore inaboutie aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, on a mené une enquête sur la profession écrivain par entretien récemment avec une équipe. Et donc, nous voyons bien que l'accès au métier d'écrivain se fait d'abord par la quête de la reconnaissance symbolique quand on est au pôle de production restreinte du champ littéraire, au pôle non professionnalisé, et la reconnaissance professionnelle ne vient qu'après. Évidemment, quand être publié, c'est déjà une forme de reconnaissance professionnelle, mais on peut pas vraiment vivre de sa plume au départ. Et le passage en fait entre le second métier et l'abandon du second métier pour vivre complètement de son œuvre est en fait progressif souvent, et souvent les écrivains hésitent un peu, ils s'arrêtent pour une résidence et puis ils reviennent avant de prendre cette décision, qui est une décision qui peut être périlleuse, de s'engager complètement dans leur œuvre. Alors l'objet de notre enquête, elle portait sur les activités connexes, hein, c'est-à-dire toutes les activités que les écrivains exercent à côté de l'écriture proprement dit, mais qui participent en fait de leur œuvre et qui sont de plus en plus reconnues et aussi prises en rémunérées. Elles sont plus ou moins rémunérées.
Quelles activités, par exemple?
Alors ça va de la lecture en public, hein, qui se développe beaucoup maintenant avec les festivals de littérature. Ça inclut les adaptations théâtrales, cinématographiques, les traductions que font les écrivains, qui parfois participent pour eux d'une activité créatrice. Toutes les créations aussi qu'ils font avec d'autres artistes, pour des performances, la musique, des chorégraphes. Maintenant, ça se développe beaucoup grâce au festival, avec des œuvres d'art aussi, des vidéos. Et puis, il y a le fait d'enseigner dans les ateliers de création littéraire. Et aussi, bien sûr, la participation à des jurys littéraires, à toutes ces instances.
Alors, on va y revenir, mais simplement un dernier mot sur cette question des origines sociales. On disait une forte présence de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie parmi les écrivains aujourd'hui, mais il y a aussi des romanciers qui viennent de milieux plus populaires et qui écrivent précisément sur la difficulté d'être ce qu'on appelle un transfuge de classe. Des romanciers et romancières, je pense en particulier à Annie Ernaux, plus récemment à Édouard Louis, qui connaissent un très fort succès.
Oui, bien sûr, parce qu'ils ont une œuvre qui est tout à fait en mesure de montrer cette violence symbolique avec des procédés tout à fait littéraires.
Succès dans les librairies et reconnaissance médiatique.
Oui, mais ça arrive, hein, mais c'est pas forcément immédiat. Hein, je pense que pour Annie Ernaux, ça n'a pas été immédiat le vaste succès. C'est plutôt le cycle plus long que décrit Pierre Bourdieu. Pour Édouard Louis, oui, c'est un très grand succès. D'ailleurs, je pense qu'il en était le premier surpris. Ça dit aussi qu'il y avait une attente de parler de ces choses-là, puisque c'est vrai que c'est un peu un tabou, hein, de décrire cette violence symbolique qui s'exerte. Alors, bon, pour Édouard Louis, c'est évidemment sur un enfant de milieu populaire qui ne correspond pas au code de la masculinité et qui est sans cesse, en fait, agressé pour cela, qui découvre sa sexualité, et c'est inacceptable, en fait, dans ce milieu, et ça a produit une violence, il est victime de violence en permanence. Afro Belle Cervantes, okay. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte. Hello? Nikolai Gogol. Gustave Flaubert. Oui. William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace Thackeray.
Nathaniel Hawthorne.
The letter A.
Herman Melville.
Ahoy there!
Charles Dickens.
What a little beautiful. Come up here.
Anthony Trollope.
Goody, 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 goody.
Theodore Dostoevsky.
Here comes Steve.
Mark Twain.
But I can't even spell Mississippi.
George Eliot.
Vous écoutez Book Lovers de The Divine Comedy sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre réflexion sur la sociologie du génie en compagnie de la sociologue Gisèle Sapiro. Alors au cœur du processus de reconnaissance d'une œuvre se trouve le critique littéraire. Et en 1947, Jean-Paul Sartre consacre un article au roman de François Mauriac, La fin de la nuit.
La fin de la nuit n'est pas un roman. Appellerez-vous roman cet ouvrage anguleux et glacé, avec des parties de théâtre, des morceaux d'analyse, des méditations poétiques? Ces démarrages heurtés, ces coups de frein violents, ces reprises pénibles, ces pannes, pouvez-vous les confondre avec le cours majestueux de la durée romanesque? Vous laisserez-vous prendre à ce récit immobile qui livre au premier coup d'œil son armature intellectuelle, où les figures muettes des héros sont inscrites comme des angles dans un cercle? S'il est vrai qu'un roman est une chose, comme un tableau, comme un édifice d'architecture, s'il est vrai qu'on fait un roman avec des consciences libres et de la durée, comme on peint un tableau avec des couleurs et de l'huile, la fin de la nuit n'est pas un roman. Tout au plus, une somme de signes et d'intentions. Monsieur Mauriac n'est pas un romancier. Pourquoi ? Pourquoi cet auteur sérieux et appliqué n'a-t-il pas atteint son but ? C'est un péché d'orgueil, je crois. Il a voulu ignorer, comme font du reste la plupart de nos auteurs, que la théorie de la relativité s'applique intégralement à l'univers romanesque, que, dans un vrai roman, pas plus que dans le monde d'Einstein, il n'y a de place pour un observateur privilégié, et que dans un système romanesque, pas plus que dans un système physique, il n'existe d'expérience permettant de déceler si ce système est en mouvement ou en repos. Monsieur Mauriac s'est préféré. Il a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Mais un roman est écrit par un homme pour des hommes. Au regard de Dieu, qui perce les apparences sans s'y arrêter, il n'est point de roman. Il n'est point d'art, puisque l'art vit d'apparence. Dieu n'est pas un artiste. Monsieur Mauriac non plus.
Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus, un article paru en 1939 et non 1947. Gisèle Sapiro, qu'est-ce qu'on peut dire de cette critique plutôt impitoyable de Sartre?
Tout à fait. Alors, elle est absolument typique des luttes qu'on a évoquées tout à l'heure, qui se mènent dans le champ littéraire entre les nouveaux entrants et les écrivains établis. Donc, Mauriac est un écrivain académicien à ce moment-là. Sartre est un jeune entrant qui fait ses dents par la critique littéraire. Il publie aussi une série sur Faulkner. Et en fait, là, ce qu'il attaque à travers Mauriac, c'est une forme d'écriture qui est celle du roman 19e siècle, du narrateur omniscient, qui équivaut à la position de Dieu. Évidemment, écharpant Mauriac sur le fait qu'il est un écrivain catholique. Et donc, Sartre, à ce moment-là, essaye d'introduire les techniques romanesques américaines, notamment Faulkner, qu'il critique aussi, bien sûr. Mais en même temps, la question du point de vue, en fait, narratif, intégrer la focalisation du point de vue narratif dans les personnages. Personne ne peut avoir ce point de vue omniscient qui prévalait dans le roman du 19e, et ça va être une sorte de révolution symbolique qu'il opère lui-même, qu'opère Camus au même moment, et tout un ensemble d'écrivains.
Et plus largement, Gisèle Sapiro, comment est-ce que ce rôle du critique littéraire évolue, et dans quelle mesure son discours, le discours de ces critiques, dépendent aussi de leur position sociale?
Alors, typiquement, Sartre est un père. Donc c'est un écrivain qui est un critique. Il y a des critiques qui ne sont pas écrivains, et au XIXe siècle, la fonction critique peut aussi exercer une forme de censure dans le champ littéraire. Alors il y a les critiques qui sont des alliés des écrivains et des artistes. D'ailleurs, les écrivains eux-mêmes se constituent comme critiques artistes. Critique d'art, au 19e, Bourdieu le décrit dans son livre sur Manet, pour transférer en fait les acquis de l'autonomisation du champ littéraire au champ artistique. Et en même temps, il y a encore ce pôle parfois des censeurs écrivains à un critique en demandant de faire un article qui leur servirait pour poursuivre un écrivain en justice.
Et puis certains critiques s'intéressent davantage à la forme, d'autres davantage au fond. Les critères ne sont pas toujours les mêmes.
Alors voilà, donc ça c'est un modèle que j'essaie de développer, de montrer qu'on peut différencier les critiques en fonction de leur position dans le champ littéraire et des contenus de la critique. Le pôle le plus hétéronome, celui justement de la censure, va se centrer sur les contenus, alors que le pôle le plus autonome va mettre l'accent justement sur ce qui fait la spécificité. Hein. D'ailleurs, l'originalité, elle est dans la forme, c'est codifié dans le droit d'auteur.
Hétéronome, c'est-à-dire dépendant des contraintes économiques et politiques.
Voilà, donc politique, idéologique, religieuse, et donc là, ce qu'on voit dans la critique de Sartre contre Mauriac, c'est justement ce pôle esthète, ce pôle de la critique de la forme, et pôle avant-gardiste d'ailleurs pour le coup, puisqu'il critique la forme dominante du roman à cette époque.
Vous parliez de ces écrivains qui pouvaient éventuellement demander à un critique littéraire d'écrire un article qui leur serait favorable. Cela peut faire partie d'une stratégie. On en parlait au début de cette émission. Et alors justement, quelle était la stratégie de Marcel Proust? Cela passait par la fréquentation assidue de ce milieu littéraire.
Ce qui est frappant quand on lit la correspondance de Proust, puisqu'elle est très abondante, très bien éditée en 22 volumes par Philippe Kolb, ce qui est frappant, c'est de constater que tout de même, il a vraiment une démarche d'homme de lettres. C'est vrai qu'il a consacré une grande partie de sa vie à son œuvre jusqu'à en mourir, parce que sa santé ne suivait pas. Mais de notre côté, il se comporte véritablement en homme de lettres, c'est-à-dire que il organise sa carrière. Il est très soucieux du devenir de ses écrits.
Un genre de lettres, dirait-on même.
Un genre de lettres au sens balzacien du terme. Dans sa correspondance, il y a quand même une grande partie de cette correspondance qui est consacrée à cela. L'entretien de relations, l'entretien d'un entre-gens avec ce qu'il est convenu d'appeler le milieu littéraire. Et ce qui est frappant aussi, c'est de constater, une fois encore, que rien n'a changé. C'est-à-dire que le milieu littéraire, la presse littéraire, telle que Proust les reflète dans les années 20, est exactement le même qu'aujourd'hui.
Voilà l'écrivain Pierre Assouline au micro de Jean-Noël Jeannonet sur France Culture. Vous êtes d'accord avec cela, Gisèle Sapiro? Rien n'a changé?
De cette description, je pense que Pierre Assouline a raison. Hein. Effectivement, il y a toujours ces milieux littéraires. Alors, ça a un peu changé parce qu'on a moins les salons, sans doute. On a d'autres formes. Et puis, la presse écrite a une place moindre qu'auparavant. Donc, du coup, l'écrivain doit plus apparaître en personne. Hein. Alors avant, il paraissait dans les salons, maintenant il va apparaître dans les festivals ou dans les salons du livre.
Et dans les années 60, c'était sur les plateaux télé, notamment sur le plateau de Bernard Pivot dans Apostrophe.
Voilà, tout à fait. Donc, et puis la radio, depuis les années 30, il y a eu une belle histoire des écrivains avec la radio à raconter. Et c'est intéressant, parce que cette tension de la vie d'écrivain entre la vie mondaine et le travail a été aussi beaucoup thématisé dans les œuvres par Proust, mais aussi par Gide dans Palude. Il y a la nouvelle de Camus, Solitaire ou solidaire, sur l'artiste Jonas qui est pris entre justement le moment du succès et puis après la capacité de créer une œuvre et de s'isolant de plus en plus et jusqu'à créer cette œuvre dont on n'arrive pas à lire si c'est Solitaire ou solidaire.
Mais en tout cas, cela pose la question de cette stratégie des écrivains pour obtenir la reconnaissance tant espérée. On en parlait au tout début de cette émission. Est-ce qu'on peut vraiment parler de stratégie? Est-ce que c'est une stratégie qui est plus ou moins consciente, Gisabelle Sapiro?
Oui, alors donc ce concept de stratégie chez Bourdieu, en fait, il faut avoir à l'esprit qu'il servait de critique au structuralisme qui pensait en fait les agents comme des supports des structures sociales. La stratégie, c'est la part d'improvisation que les acteurs sociaux ont à partir de leur disposition. Donc ces stratégies, contre l'idée sartrienne que on serait complètement libre et on pourrait, comme le garçon, enfin comme Sartre décrit le garçon de café, décider de ne plus aller au travail. Il faut être Sartre assis au café et se faisant servir pour penser que le garçon de café a les moyens de s'affranchir de sa condition de garçon de café. Bourdieu a écrit une critique de ça d'ailleurs. Et donc cette notion de stratégie, c'est essayer de comprendre comment l'auteur adapte, ajuste, s'ajuste en fait aux contraintes qu'il rencontre quand il rentre dans le champ littéraire et comment en fonction de ses dispositions, il s'oriente dans cet espace.
Et donc tout en mettant en scène une relation désintéressée à l'argent, par exemple. Ça peut faire partie d'une stratégie.
Ça fait complètement, surtout en France, il y a quand même une grande tradition justement qui remonte au 18e, hein, qui remonte à cette tradition l'écrivain ne doit pas... la notion des intéressements qui est théorisé, sur laquelle je travaille actuellement, théorisé au XVIIIe siècle.
Par Rousseau
Par Rousseau, mais par Kant aussi, dans la question du jugement esthétique. Et elle traverse en fait toutes les professions intellectuelles et artistiques au moment où le paradigme de l'intérêt devient dominant avec l'économie. C'est justement l'idée, et ça vient de la religion, c'est un transfert qui vient de la religion à l'esthétique. Et chez les écrivains du XIXe qui critiquent la bourgeoisie, le capitalisme, il y a en fait cette notion de à la fois aristocratique, de mépris de l'argent, cette vision religieuse, puriste, d'une activité désintéressée qui doit guider l'action.
Il y aurait une vision aristocratique du génie, une vision religieuse de la vocation d'écrivain. Et face à cela, cette idée de génie est remise en question, notamment par les ateliers d'écriture, le fait que l'on peut apprendre à écrire, des ateliers qui se sont d'abord développés aux États-Unis.
C'est né aux États-Unis dans les années 30, hein, et un des lieux mythiques... c'est le Writers Workshop dans l'Iowa. Si on regarde la page de ce qu'ils disent sur leur site internet, ils disent pas qu'on va créer des écrivains, ça n'a pas beaucoup de sens cette idée-là. Ils disent qu'on va créer un cadre qui sera un cadre très stimulant pour des gens qui écrivent déjà pour mûrir et gagner du temps, comme le disait Inanay. Là où je nuancerais ce qu'il dit, c'est que ça existe quand même un peu aussi en Europe. C'est-à-dire qu'à Leipzig, par exemple, moi j'ai passé une semaine là-bas depuis les années 50 en fait. À Moscou, il y avait aussi quelque chose. Il y a eu un moment où c'était dans le cadre de la guerre froide, les Américains et le bloc de l'Est faisaient concurrence aussi sur la création littéraire comme instrument de soft power. Aux États-Unis, il y a plus de 200 formations. Donc nous, ce qu'on peut en voir en France, c'est la partie émergée de l'iceberg, et on peut se dire que ça apprend avant tout des techniques pour raconter des histoires absolument captivantes.
Vincent Message, enseignant dans le master création littéraire à Paris 8, il était interviewé par Maïlys Bessery. Ces techniques narratives, Gisabelle Sapiro, elles ont été un peu dédaignées en France par rapport aux États-Unis?
En France, il y a cette idéologie du don et du créateur incréé qui fait obstacle au développement de ces ateliers de création littéraire qui existent. Les écrivains en vivent, mais ils disent bien dans les entretiens qu'on a fait que pour eux, c'est pas par là, que c'est pas pour apprendre aux écrivains à écrire. C'est en fait pour initier la littérature. Ils en font en prison, ils en font auprès dans les écoles, ils en font dans. Mais en fait, depuis peu de temps, ce modèle a été introduit, ce que raconte Vincent Message. Et il y a 8 universités maintenant en France qui proposent ça, comme Paris 8 ou Vincent Message. Et puis il y a des ateliers qui sont proposés par des éditeurs. Donc l'atelier Gallimard a acquis une certaine réputation depuis que Leïla Slimani, donc lauréate du Goncourt, a dit avoir suivi cet atelier.
Donc vous diriez qu'avec cet atelier, on se détache de cette idée qui avait été développée, entre autres évidemment, par Louis Aragon, mais qui disait « l'écriture ne s'apprend pas ».
Oui, Aragon a cette célèbre phrase « je n'ai jamais appris à écrire ». Et donc effectivement, ce qui est évidemment faux, puisqu'ils apprenaient, on voit Flaubert faire des exercices dans le cadre de sa formation secondaire, des exercices d'écriture. Ça avait été d'ailleurs étudié par Geneviève Hitt de manière intéressante, chez Sartre aussi. Et Sartre, dans les mots, a une très très belle description en fait de cet apprentissage qui n'en est pas un, du métier d'écrivain. Donc c'est un apprentissage, on pourrait dire, pratique, et c'est pour ça que les ateliers d'écriture, ça correspond tout à fait à ce mode d'apprentissage pratique, comme en fait c'est le métier artistique qui ne s'apprend pas, parce qu'il y a des formations, les beaux-arts existaient, il y a une formation musicale, donc c'est le lieu le plus à la fois le plus individualisé, la littérature, et puis le plus dans cette croyance du créateur incréé, mais qui est effectivement...
Mais c'est en train de bouger, voilà, il y a une reconnaissance.
C'est vrai que les formations de creative writings sont devenues des gatekeepers, c'est-à-dire des conditions d'entrée dans le champ littéraire, avec les agents, donc c'est plus les éditeurs. Les éditeurs ne sont que le réceptacle d'une sélection qui est faite d'une part par ces ateliers de création et d'autre part par les agents littéraires.
Et alors vous diriez qu'aujourd'hui cette méfiance qui pouvait exister à l'égard de ces ateliers est en train de s'estomper en France. Il y avait aussi une méfiance aux États-Unis qui était peut-être à mettre en lien avec le fait que c'était un domaine largement dominé par les femmes en l'occurrence.
Alors les ateliers les formations de creative writing sont pas vraiment dominé par les femmes, je pense. Il y a plein d'écrivains qui
peut-être enseignent. Que ça a été le cas avant et que ça a
changé. Mais aux États-Unis, en fait, c'est complètement établi et même les agents vont chercher auprès des creative writing. Et en fait, ça permet à des genres comme la poésie d'exister puisqu'ils ont aussi des publications issues de ces creative writing. Alors qu'en France, la poésie, c'est un milieu qui est complètement maintenant le pôle qui représente plus le pôle de production restreinte, qui est un milieu entre pairs. Et qui ne touche plus un public large, la poésie actuelle, enfin la poésie contemporaine. Moi, je pense qu'en France, les réticences sont encore très fortes à l'égard de ces ateliers. Alors, les éditeurs, d'abord, s'en méfient fortement, parce qu'en France, les éditeurs veulent garder la prérogative de la découverte.
Ils jouent ce rôle aussi d'accompagnement des écrivains.
Absolument, et ils font ce travail. Alors, souvent, ce sont des petits éditeurs qui sont les découvreurs. Le rôle de Minuit, le rôle de POL, a été important de ce point de vue-là. Et puis, c'est une fois que la reconnaissance commence à être acquise qu'ils vont passer chez les grands éditeurs littéraires. Mais c'est sûr que publier chez Gallimard pour un écrivain, c'est une forme de reconnaissance, de consécration même littéraire.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Gisèle Sapiro, vous le disiez, c'est la saison des prix littéraires. Quel rôle est-ce qu'ils jouent encore dans la construction sociale du génie et quel rôle ils ont pu jouer dans le passé ?
Alors les prix littéraires ont une histoire qui est très ancienne. Il y avait des prix de l'Académie, mais qui n'avaient pas du tout l'impact que vont avoir les prix à partir du XXe siècle, à partir de la création du prix Goncourt, qui était à l'origine mis en place par les frères Goncourt dans le testament pour justement contrer le pôle mondain du champ littéraire. Les naturalistes n'avaient pas été admis à l'Académie française. Zola s'est présenté 24 fois. n'a jamais été accepté. Et donc, c'était pour contrer ça et explicitement dans le testament, c'était pour favoriser les écrivains qui vivent de leur plume et qui ne seraient qu'écrivains et pas des grands seigneurs comme à l'Académie.
Sauf qu'aujourd'hui, le prix Goncourt, par exemple, a peut-être tendance à consacrer un écrivain qui est déjà très largement reconnu.
Alors effectivement, le Goncourt à l'époque était censé découvrir un jeune talent. Ça a beaucoup évolué de fait. Et effectivement, c'est plutôt un prix de la consécration que d'une carrière ou au milieu de la carrière que autre chose. Après, les prix en fait ont une histoire qui est liée au capitalisme d'édition et à la médiatisation. C'est-à-dire que pour exister et être visible, alors c'est pas le vrai pour tous les prix, hein, mais les grands prix d'automne dont on parle ces jours-ci, c'est sûr que ils doivent couronner des écrivains qui vendent déjà assez pour eux-mêmes continuer à exister symboliquement et aussi économiquement, à être un enjeu pour les éditeurs. Il y a des prix qui se soucient beaucoup moins des ventes.
Hein, qui existent. En l'occurrence, oui, dans le cas du prix Goncourt, en général, les chiffres de vente qui suivent sont exceptionnels.
Oui, alors bon, on connaît l'histoire de l'amant de Marguerite Duras qui, quand elle arrive, quand elle reçoit le prix Goncourt en 84, en fait, elle a déjà vendu 300 000 exemplaires parce qu'elle est passée chez Pivot à la télévision, dont on l'évoquait tout à l'heure. Donc le prix Goncourt amplifie, mais quelqu'un qui aurait vendu quelques dizaines de milliers, pas quelques centaines, ben ça amplifiera, mais moins.
On va voir ce qui va se passer pour Jean-Paul Dubois en l'occurrence, qui vient de recevoir.
Mais c'est vrai que régulièrement ces prix essayent quand même aller de couronner des écrivains qui sont au pôle de production restreinte. On peut penser au couronnement de Je m'en vais d'Echenoz ou d'autres écrivains qui étaient, enfin qui voilà, c'est pas un best-seller et c'est la reconnaissance en fait du pôle expérimental, peut-on dire, plus que la notion de génie est moins utilisée aujourd'hui, mais la notion de littérature expérimentale ou innovante est plus courante.
Un mot de conclusion peut-être, Gisèle Sapiro, sur cette fabrique du génie, sur les conditions qui permettent la reconnaissance du talent aujourd'hui.
Alors, ce sont des instances qui le font, comme on le disait. Donc, les éditeurs sont ceux qui essaient d'identifier. On essaye régulièrement de faire des espèces de tests en disant, voilà, si on fait circuler un manuscrit de Kafka aujourd'hui, qui le publierait. Bon, Kafka, c'est trop reconnaissable, mais il y a eu quelques expériences qui ont montré que, il passerait pas forcément la rampe, des écritures qui étaient innovantes il y a plusieurs décennies et qui normalement aujourd'hui devraient être considérées comme des modèles acceptés, ils sont encore considérés comme trop expérimentaux pour les critères de voilà. Donc ça pose des questions, hein, et encore en France il y a une ouverture, je pense, plus que dans le monde anglo-américain à l'innovation formelle. Alors fort heureusement, il existe même dans le monde anglo-américain de tout petits éditeurs qui ne passent pas par les agents et qui continuent à promouvoir des modèles expérimentaux. Ils sont beaucoup moins visibles parce que ils sont pas en librairie, il y a plus de librairie, enfin voilà. Mais ils ont été sauvés par Internet, puisqu'ils peuvent faire des activités en ligne et donc être visibles grâce à Internet.
Et c'est comme ça que des pépites littéraires ne devraient pas tomber dans l'oubli, ou plus exactement ne jamais être découvertes. Merci beaucoup Gisèle Sapiro.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Renforcer les industries ou protéger le droit à la concurrence entre la commissaire européenne Margrethe Vestager et la France, le débat sur les méga-fusions est relancé.
Oui, depuis les propos dimanche de la commissaire européenne et vice-présidente de la commission au journal belge Le Soir, elle évoquait des champions industriels biberonnés et chouchoutés, parlant d'une façon vieille école de voir les choses, et elle prenait la défense de l'écosystème des PME européennes. Ces déclarations prennent un relief particulier pour la France, qui tente justement de faire émerger des champions partout dans les batteries, les données, et qui a mal vécu l'interdiction cette année de la méga-fusion Alstom-Siemens par la commission à la concurrence, la même commission qui vient de lancer une enquête sur la fusion Fincantieri-Chantier Naval. Plus diplomate que Vestager, la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher parlait, elle, lundi, d'un malentendu, et elle plaide la nécessité économique mondiale face à la concurrence chinoise notamment, manière d'assurer la venir renchérissait Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Alors les champions vont-ils finir par déchirer l'Europe? Écoutez ce qu'en disait Vincent Charlet, il est délégué général de la Fabrique de l'Industrie.
Honnêtement, sur les chantiers atlantiques, il y a quelques mois seulement, on nous appelait à nous pour nous dire si c'était pas un drame que des capitaux étrangers mettent la main sur ce fleuron national. Et aujourd'hui, il faudrait s'alarmer au contraire de ce que la Commission veut aller enquêter sur le bien fondé de l'opération. Bon, je pense que il faut garder la tête froide. Il y a une économie ou des acteurs économiques qui ont des projets qui sont conformes à leurs intérêts et une Commission européenne qui suit assez scrupuleusement et de façon assez professionnelle un mandat qui lui a été donné. La suggestion qu'on peut faire pour réconcilier les termes du débat, c'est d'en revenir à, par exemple, une des notes récentes du CAE, du Conseil d'analyse économique, en mai dernier, qui analyse les choses posément et qui montre d'une part que le bilan de la politique de concurrence est plutôt conforme à son mandat et conforme à ce qu'on peut en attendre. Donc il n'y a pas un bug dans le logiciel européen de la politique de la concurrence. Deuxième point, il ne faut pas confondre politique de la concurrence et politique commerciale, c'est-à-dire la manière dont l'Europe se projette et interagit avec les autres puissances mondiales dans un cadre aujourd'hui multilatéral qui est celui de l'OMC, qui ne va pas forcément très très bien, en tout cas dont les principaux acteurs ne sont pas toujours des joueurs honnêtes, il faut le dire comme c'est. Et c'est là que se situe le problème. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas céder à ce mythe ou à cette idée un peu facile qu'il faudrait des champions tout le temps partout. Non, ça dépend du niveau de maturité des secteurs en particulier.
Et en particulier dans l'automobile, le sujet est à la fusion annoncée de PSA avec Fiat Chrysler, projet à venir qui donne lieu aussi à des prises de position variées.
Oui, par exemple, dans les Échos, Daniel Fortin combat les futures Cassandres et il se réjouit de la naissance future du quatrième constructeur mondial, alors que André Buigues, lui spécialiste de l'industrie dans le monde, explique que la constitution d'un méga-groupe ne masquera pas le déclin des sites de production automobile en France et c'est le vrai problème, affirme-t-il.
On passe au brève et on reste dans l'industrie jusqu'aux narines même. Les sites classés Seveso sous haute pression.
Pression de l'Amaris, l'association qui regroupe les collectivités ayant sur leur territoire un des 744 sites classés Seveso, ceux qui dépassent donc tous les seuils, inflammabilité et toxicité, comme c'est le cas pour l'usine Lubrizol de Rouen. Et cette association de collectivités qui, dans un livre blanc, dénonce l'inefficacité quasi totale des plans de prévention post-AZF et la déficience des moyens d'information ou avant, après les accidents. Ceci alors que, souligne l'usine nouvelle, l'accidentologie des sites industriels et Seveso augmente depuis 2016, 161 accidents en 2018, sites pharmaceutiques en tête.
Et pour finir, les aéroports privatisés sèment la discorde en France et il ne s'agit pas d'ADP Aéroports de Paris, Xavier.
Eh bien non, et c'est une coïncidence alors que le gouvernement se dit favorable à l'extension de l'aéroport de Nice pour accueillir 18 millions de passagers par an à terme. Eh bien cet accord rend furieuses les associations de riverains inquiets de l'impact sanitaire des avions et 8800 véhicules supplémentaires. À Toulouse, eh bien, ce sont les actionnaires de l'aéroport Toulouse-Blagnac, les collectivités, petits actionnaires, qui protestent contre, je cite, la gestion strictement mercantile et à court terme de l'actionnaire principal Casil Europe, qui vient de distribuer avec l'accord de l'État en dividende l'entièreté de ses bénéfices, c'est 16,2 millions d'euros.
On se quitte avec Zika Zika, Del Buo, avec Uji et Barrio Lindo. Merci beaucoup Gisèle Sapiro de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante émission. Demain, nous partons à la recherche des liens visibles qui unissent le langage et la monnaie. Nous serons en compagnie des économistes Yaël Dosqué et André Orléans. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.